Session Être et vivre entre nature et personne. Troisième cours. Des enjeux éthiques et politiques pour l'homme entre sa nature et sa personne. Nous abordons maintenant la troisième et dernière partie de cette session. Au cours du premier chapitre, une ébauche historique de la pensée occidentale, née en Grèce vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, nous a permis d'entrer dans la relation entre la pensée de l'homme et toute la réalité existante appartenant à l'univers physique. D'où le fondement, puis l'ordre, entre une philosophie réaliste et une philosophie idéaliste. D'où la question, la pensée mesure-t-elle la réalité, ou bien la réalité est-elle mesure de la pensée ? Il y a donc deux écoles. L'une, à la suite d'Héraclite, le philosophe du mouvement, pour qui le feu est principe de l'univers, et la guerre est le père de toute chose, avec Platon, dont la philosophie s'élève du sensible corruptible, de toute matière, par la réminiscence, les formes idéales, reprise plus tard par Descartes avec les idées innées où triomphe l'esprit mathématique, puis par Hegel avec la pensée absolue, la pensée de la pensée en l'homme divinisé. Car en Dieu seul, être et vie ne font qu'un. L'autre, à la suite de Parménide, qui s'exclame « Pour comprendre la pensée, il faut regarder l'être. » Avec Aristote, qui nous transmet sa fameuse réplique à Platon, en contestant la théorie des formes. La voie inductive conduit à la recherche d'un principe, un premier, au-delà du multiple, de la complexité, de toute division provenant de la matière. La voie aristotélicienne met en évidence deux questions existentielles dans toute recherche. Qu'est-ce que la réalité saisie par sa forme? En vue de quoi existe-t-elle? Quelle école prévaut sur l'autre? Une pensée objective réclame nécessairement de se référer à quelque chose de réel reçu dans l'intelligence. Elle implique donc une antériorité venant de la réalité. Le réalisme reçoit la réalité telle qu'elle est, puis la saisit par la connaissance dans l'intelligence qui est relative à la réalité observée. Par contre, l'idéalisme soumet la réalité à la pensée, entraînant un repli de l'esprit sur lui-même. La vie réelle nous impose d'avoir sans cesse conscience de l'antériorité de l'existé de toute réalité sur l'activité de l'esprit. Cette antériorité de l'être sur la pensée réclame le principe de non-contradiction qu'Aristote indique dans sa métaphysique. Je le cite. Il n'est pas possible en effet de concevoir jamais que la même chose est et n'est pas, comme certains croient qu'Héraclite le dit. Fin de citation. Cette première loi fondamentale dans la vie de l'intelligence pose naturellement ensuite la question de la vérité, finalité de la vie de l'intelligence, qui est selon les propres termes de Thomas d'Aquin, adéquatio, intellectus ad rem. Adéquation entre l'intelligence et ce qui est l'être de la réalité. Dans un ordre de perfection ou de nature, ce constat préliminaire pose donc l'antériorité d'une philosophie de l'être sur une philosophie de la vie, et par conséquent, sur toute la philosophie pratique, sinon, comme nous l'avons dit, au même titre que la pensée devient mesure de la réalité, la vie devient mesure de l'être et l'être disparaît, englouti dans la pensée humaine. Du jugement d'existence, acte fondateur de la vie de l'intelligence, découle le respect d'un ordre, un ordre de sagesse, entre ce qui relève de la vie et ce qui relève de l'être. La science des causes qu'Aristote désigne au début de sa métaphysique. Une science plus élevée est aussi plus philosophique qu'une science subordonnée. Cet ordre explicité par Thomas d'Aquin dans les sentences « Sapiensis est ordinare », ce qui signifie « le propre du sage est d'ordonner ». Ainsi, toute analyse philosophique doit respecter un ordre dans sa recherche selon les différents corpus auxquels elle s'adresse, auxquels elle appartient. Ce qui signifie qu'un même objet, une même question, peut avoir des significations différentes selon le corps philosophique dans lequel il est étudié. Par exemple, la relation dans le travail n'est pas la même que la relation dans l'amitié ou au plan politique. De même, l'âme est étudiée en philosophie du vivant, non pas en éthique ou en métaphysique. La forme est premièrement étudiée en philosophie de l'art et non en métaphysique. Être et vivre, entre nature et personne. Qu'est-ce que la nature? Qu'est-ce que la personne? Que signifie le mot nature? Par notre nature, nous appartenons au monde physique, qui spécifie le genre, donc la forme, qui est la nôtre. Toute réalité, quelle qu'elle soit, possède une nature propre qui lui est donnée et qu'elle ne choisit pas. La plante n'est pas un animal. La carotte n'est pas une tomate. La graine de moutarde n'est pas le grain de blé. La femme n'est pas l'homme, même s'ils appartiennent tous deux au genre humain. La nature conçoit la diversité jointe à la complémentarité, toutes deux finalisées en vue de l'harmonie du monde physique. La nature possède sa propre harmonie, avec ses lois, ses propriétés, son immense diversité. Tout cela est donné, comme tout cela est ordonné. L'homme le reçoit par ses sens, non en tant que propriétaire, mais en tant que créature, au même titre que les autres créatures, à la différence essentielle qu'il est la créature la plus parfaite, sommet de la création, parce qu'il a l'esprit, le nous, l'intelligence séparée et la volonté, l'amour spirituel. Que signifie le mot « personne » ? Le mot « personne » vient du grec « prosopon », qui signifie à l'origine le masque dans le théâtre grec. Les Grecs nomment ces masques « prosopa » parce qu'on les met sur le visage et devant les yeux si bien qu'ils cachent la figure. « Prosopon » désigne ensuite la personne avec Épictète, l'esclave affranchi, 50-125 après Jésus-Christ, philosophe grec de l'école stoïcienne, qui dit « Ne dis pas « je fais de la philosophie », dis « je m'affranchis ». Pour Épictète, le choix, en grec « proairesis », signifie que l'on est une personne lorsque l'on choisit un ami. Ensuite, Boès, 470-525, philosophe latin, dit que la personne est persona proprie dicitur, naturae rationalis, individua substantia, ce qui signifie substance individualisée de nature raisonnable. Boès a commenté les catégories d'Aristote. La personne ne peut pas être décrite, car en tant que réalité individuelle, elle est substantielle, donc qualitative et pour une part, au-delà de toute description. Thomas d'Aquin désigne la personne dans la somme. Le particulier et l'individu se rencontrent sous un mode encore plus spécial et parfait dans les substances raisonnables qui ont la maîtrise de leurs actes. Elles ne sont pas simplement agies comme les autres, elles agissent par elles-mêmes. Or, les actions existent dans les singuliers. Aussi, parmi les autres substances, les individus de nature raisonnable ont-ils un nom spécial, celui de personne. Et voilà pourquoi, dans la définition ci-dessus, on dit « la substance individuelle ». Puisque « personne » signifie le singulier du genre « substance », et l'on ajoute « de nature raisonnable » en tant qu'elle signifie le singulier dans les substances raisonnables. Fermez les guillemets. Le mot « personne » prend sa racine dans la substance individuée, premier principe de la métaphysique, donc incarné dans un individu à la suite de Boès, mais impliquant l'acte, second principe de la métaphysique, pour montrer que la personne implique la maîtrise d'elle-même par sa nature raisonnable, d'où la responsabilité de l'homme dans ses actes pour être une personne. Ce qui signifie que je dois agir en fonction de ma finalité humaine pour être considéré comme une personne. Sinon, je ne suis pas une personne, mais je ne suis qu'un individu. C'est l'aspect qualitatif au niveau de l'être face au domaine de la quantité qui mesure la matière et tout ce qui relève du devenir. Si nous revenons à la philosophie de l'être, puis au retour sur l'individuation qui est la manière dont l'être existe dans un individu, nous découvrons que la personne est un mode individué de l'être. C'est l'être inhérent dans une forme qui lui attribue sa réalité propre, en particulier dans le genre homme. Aussi, il est nécessaire de faire la distinction entre la nature de l'homme, réalité appartenant à l'univers physique, réalité la plus parfaite, dotée de l'esprit, et la personne de l'homme que le philosophe découvre comme la manière dont l'être est individué. La nature appartient naturellement au monde de la vie, en particulier au monde des vivants, pour l'homme, tandis que la personne est découverte métaphysiquement par une induction de l'être, donc à partir des deux principes fondateurs, la substance et l'acte. La distinction de ces deux voies, ayant chacune son ordre propre, est capitale à comprendre pour appréhender l'homme d'une part dans sa nature et d'autre part dans sa personne. D'ailleurs, nous disons en admirant un nouveau-né dans son berceau « quel bel enfant » et non pas « quelle belle personne ». Ce qui distingue les deux, c'est la nature humaine pour l'enfant et la qualité humaine pour la personne, plus précisément la finalité humaine. La nature est donnée, tandis que la qualité ordonnée à la finalité est acquise. L'apport de l'être à la vie transcende le devenir par les sept dimensions fondamentales désignées à la fin du chapitre précédent selon un ordre d'acquisition. En premier, l'autonomie dans l'ordre de l'être. En second, la recherche de la vérité. En troisième, la capacité d'aimer. En quatrième, l'homme capable de transformer l'univers. En cinquième, la prudence. En sixième, le corps, puis au sommet, la septième et ultime dimension, la découverte de Dieu créateur. Nous entrons maintenant au cœur du sujet de ce troisième et dernier chapitre. Quels sont les enjeux éthiques et politiques pour l'homme entre sa nature et sa personne ? Notre nature, la nature humaine, est constituée de notre corps qui nous lie directement à l'univers physique et de notre âme qui est la source cachée, immanente de nos opérations vitales. L'âme fait l'unité de la complexité, de la diversité de notre vie. Elle est distincte du corps tout en étant dans le corps. L'âme n'est donc pas saisie directement, mais par le corps, parce que nous sommes des êtres incarnés. Cela met en évidence l'antériorité radicale de la nature par le corps sur la personne qui est corps et esprit. Nous sommes corps et âme unis substantiellement, d'où cette antériorité radicale de la nature sur la personne. Mais faisons attention, l'âme n'est pas l'esprit. Le philosophe découvre l'âme et l'esprit en philosophie du vivant. L'âme est un principe, un premier, dans l'ordre de la vie, tandis que l'esprit caractérise la vie humaine. Il différencie l'être humain des êtres vivants, car l'homme pense, réfléchit, juge, critique, aime ou contemple. Ses activités dépassent la vie du corps, donc la vie végétative et pour une part la vie sensible, qui reste liée à l'imagination. L'esprit dépasse la matière, le devenir, par l'activité de l'intelligence et de la volonté. Cette antériorité de la nature sur la personne fait comprendre la place essentielle de l'éducation de l'enfant en vue de devenir une personne. En effet, l'enfance repose dans la première éducation sur la nature, tandis que l'âge adulte est atteint à la maturité par l'acquisition des finalités que nous découvrons dans les dimensions fondamentales de la personne humaine. L'éducation se situe donc entre nature et personne, impliquant le corps, l'âme et la finalité. L'antériorité de la nature sur la personne est d'ailleurs mise en évidence par l'antériorité de la matière, donc de la nature, sur la forme dans l'activité artistique. L'artiste, par son inspiration, transforme la matière en vue de lui donner une nouvelle forme. La domination de la forme apparaît aujourd'hui de toute évidence dans les mathématiques qui marquent, pour ne pas dire déterminent, l'esprit humain. L'art des mathématiques manifeste cette prééminence de la forme, donc de l'absolu, de l'immanence de la pensée mathématique sur la transcendance de la réalité. Peut-on poser le jugement d'existence « ceci est » en mathématiques ? Non, car il se pose face à une réalité. Les mathématiques n'appartiennent pas à l'ordre de ce qui est, donc de l'être, mais à l'ordre de ce qui est possible, donc du possible. Or, le possible n'existe pas dans la réalité, mais dans l'imaginaire humain. Par contre, la métaphysique, dans la question « en vue de quoi l'être ?», pose son regard sur la finalité dans l'ordre de l'être. Les mathématiques sont un outil, peut-être l'outil le plus noble, dont l'intelligence se sert avec l'aide de l'imagination, à condition de revenir au réel, à la réalité pour laquelle elle est faite, sans lui imposer les seuls effets de l'imagination, que l'on nomme perception ou représentation. Une intelligence conduite par l'imaginaire n'est plus tournée vers sa finalité, vers ce qui est, l'être, mais vers son propre devenir dans le raisonnement en mouvement sur lui-même. Tel est le fonctionnement courant de la pensée moderne. Dans son analyse, sa recherche, le philosophe doit dépasser les mathématiques pour permettre à l'intelligence de se servir de l'imagination en la purifiant face à l'être. Sinon, la forme pure enferme la pensée sur elle-même, en dehors de la réalité, en se substituant à elle. La finalité disparaît alors pour laisser place à la valeur qui supprime la nature et la personne. En cas de disparition de la finalité, le genre devient alors un absolu, un fondement. La quantité s'impose sur la qualité. La pensée s'exalte, puis c'est le règne de la pensée absolue à la suite de Descartes, de Kant, puis de Hegel. Que devient dans l'ordre des valeurs la distinction homme et femme? Elle disparaît, car les mathématiques ne sont ni masculines ni féminines. Par les mathématiques, l'homme se situe au-delà de la nature, ce qui entraîne une égalité entre l'homme et la femme par les mathématiques, au-delà de la nature que l'homme veut supprimer pour ne regarder que les mathématiques qui dépendent totalement de lui. N'étant ni masculine ni féminine, les mathématiques sont plus intuitives chez la femme par son sens de l'intériorité, plus rationnelles chez l'homme par son sens de l'extériorité. Ce qu'il importe de comprendre et de respecter, c'est que la philosophie de l'être, la métaphysique, fait découvrir la personne en tant que dépassement puis accomplissement plénier de la nature. Les mathématiques demeurent le lieu de rencontre de l'esprit humain, homme ou femme, sans distinction, puisqu'elles ne sont pas d'ordre naturel, mais d'ordre artistique et conceptuel. Cet ordre est atteint par l'intelligence liée à l'imagination, qui elle-même est dominée par l'esprit scientifique. D'où la prééminence de la quantité qui unifie face à la qualité qui différencie. Les mathématiques omniprésentes dans l'esprit moderne et la métaphysique, science de l'être, sont considérées comme les référents de la philosophie moderne pour l'une, et de la philosophie réaliste pour l'autre, référant à l'opposé l'un de l'autre, pourrait-on dire. Ce qui les différencie en premier lieu, c'est l'ordre existant entre l'immanence et la transcendance. L'autre, la réalité autre que moi, est-elle respectée pour elle-même, ou bien est-elle absorbée dans le mouvement vital de la pensée. Dans le travail ou l'art, la matière est autre que l'agent, qui est l'artiste, le travailleur, et bien évidemment, l'univers est autre. Dans l'amitié, l'ami est autre que moi. Enfin, à la source de l'être, Dieu est autre, Dieu que l'homme rencontre dans l'adoration. En sens inverse, la pensée aboutit à la confusion entre l'être et la vie, puisque le raisonnement dans son mouvement interne absorbe l'être, donnant naissance à l'ontologisme qui est la confusion entre l'être et la vie ayant absorbé l'être. L'autre n'existe plus pour lui-même, mais reste enfermé dans ma pensée. Aussi, l'intelligence, pour rester pleinement elle-même, doit respecter l'être en le saisissant au-delà du sensible. Car c'est du sensible que provient l'imagination. Cependant, la plupart des gens vivent au niveau du sensible, s'arrêtent au sensible, puis demeurent dans l'imaginaire. L'être n'est pas atteint, étant au-delà du sensible. D'où l'homme ne cherche plus la vérité, tout en demeurant sincère, car la vérité n'est pas dans l'imagination, dans l'idée, mais dans l'être. En effet, notre regard sur la personne part du jugement d'existence « ceci est », puis assume cette science de l'être avec ses deux principes, la substance « principe selon la forme » et l'acte « principe selon la fin ». Mon âme est à ma vie, ce que ma substance est à mon être, en tant que principe d'autonomie. Je suis autonome par mon être, autonomie dont je dois avoir conscience pour découvrir la finalité. Car je ne peux pas être finalisé si je n'ai pas conscience de mon autonomie dans l'ordre de l'être. Un être finalisé sait où il va, tandis qu'un être non finalisé erre, puis est manipulé par l'opinion. Ma personne, le comment de mon être, est unie substantiellement à mon corps, qui fait partie de ma nature humaine. Mais le corps et l'âme n'ont pas les mêmes finalités. Le corps est soumis au temps, contrairement à l'âme. Il peut tomber malade, il vieillit, puis il meurt. Tandis que l'âme ne vieillit pas, ne meurt pas. Cependant, l'âme fatigue sous les effets du corps jusqu'à se séparer de lui au terme de la vie. Mais l'âme ne vieillissant pas, l'esprit humain peut dépasser la vieillesse et garder sa jeunesse, voire même rajeunir avec l'âge. On peut être âgé et rester jeune, voire même rajeunir par une plus grande richesse intérieure. L'homme, corps et âme, reçoit son corps de la nature dans l'union entre un homme et une femme, comme cela se passe dans la vie animale. Mais qu'en est-il de l'âme humaine qui n'est pas seulement animale ? D'où vient-elle ? L'âme, principe de vie, est créée directement par Dieu, parce que, comme le nous, la part séparée de l'intelligence dans sa partie haute, l'âme spirituelle échappe à la matière. Dieu ne crée pas la vie. Dieu ne crée pas directement le chat ou le chien. Dieu ne crée pas directement l'homme ou la femme. Mais Dieu crée l'âme humaine parce qu'elle est spirituelle. Dieu ne crée pas la vie, mais l'être. Il crée l'être vivant. L'homme a un pouvoir sur la vie, sur le devenir. Il ne crée pas la vie, il la transforme. Il a un pouvoir sur l'être, non pas directement, mais sur l'être par le devenir qui implique la matière. Par exemple, tous nous mourrons un jour et notre corps devenu cadavre pourra se décomposer comme matière, ou bien être réduit en cendres par l'homme lui-même, comme certains le désirent après leur mort. L'homme a une âme, mais l'animal a-t-il une âme ? Couramment, on dit que l'animal a une âme. En fait, au sens strict du mot, on doit dire que l'animal a une nature, parce que la nature est principe du devenir. L'animal n'existe que dans le devenir. Sa nature ne survit pas après sa mort, tandis que l'âme humaine, qui est spirituelle, demeure après la mort de l'homme. C'est pourquoi l'animal peut être un aliment pour l'homme. Dans cette distinction fondamentale entre l'âme et la nature, il est nécessaire de comprendre que l'âme est principe de vie, que la substance est principe d'être pour l'homme, tandis que la nature et principe du mouvement pour les êtres vivants. La substance est donc appliquée seulement à l'homme qui existe au-delà du devenir par l'esprit, par l'intelligence séparée, le nous, ce mot inventé par Aristote. L'âme est créée directement par Dieu, mais à quel moment est-elle créée ? Dès la conception ou plus tard ? Le philosophe ne sait pas. Mais il sait que l'embryon est un être humain en devenir, en vue d'être un homme. La création de l'âme pourrait donc avoir lieu quand l'embryon aurait de fait acquis une autonomie d'être par rapport à la mère. Dans ce sens, l'embryon doit être respecté dès la conception, car il existe en vue de devenir un être humain, doté d'une âme spirituelle. C'est par la finalité que l'on répond à cette question sur la création de l'âme, donc du respect de l'embryon dès sa conception. D'autre part, la complémentarité entre l'homme et la femme dans l'ordre de la procréation vient du Créateur, vient de Dieu, en tant que finalité dans l'ordre de la nature. Car l'esprit humain, dans la complémentarité, échappe à la matière et au devenir. Ne pas tenir compte de cette complémentarité naturelle voulue par le Créateur entraîne de graves conséquences dont on constate les effets au niveau scientifique et idéologique, en particulier dans le domaine de la bioéthique. Aller à l'encontre de la volonté du Créateur, c'est refuser sa sagesse et attribuer à l'intelligence un pouvoir qu'elle n'a pas. Par nature, nous sommes faits hommes et femmes avec nos différences et nos complémentarités naturelles, en premier lieu pour la procréation. C'est-à-dire pour la génération en vue de la pérennité de l'espèce humaine. Quand l'homme n'accepte pas ce réalisme premier naturel, quand la pensée menée par certaines idéologies dites de progrès dénie cette réalité foncière, il rejette l'antériorité de la nature humaine sur la personne humaine. Et tuer la nature, entre guillemets, ou la modifier essentiellement, c'est aussi tuer la personne. Dans sa liberté, l'imagination se laisse aller, entraînant l'intelligence dans ses excès, voire même ses folies. L'idéologie détachée de la réalité, du réalisme foncier de la nature, impose un diktat sur l'individu qui n'est plus la personne. L'esprit, soumis aux lois du possible, cher à l'esprit mathématique, remplace la complémentarité naturelle entre l'homme et la femme par la similitude provenant de la suppression de la personne et de ses finalités. La similitude, entraînant la disparition de la complémentarité, justifie l'homosexualité qu'elle a dissociée de la loi naturelle. Affirmer que l'homosexualité est contraire à la nature n'est pas sans respecter et aimer la personne concernée. L'étude de la personne s'ouvre sur l'amitié, sur la recherche de la vérité, et enfin, sur la découverte de Dieu avec la contemplation du Créateur. Ces finalités transcendantes, quand elles sont supprimées, sont remplacées par des besoins vitaux consécutifs au repli de l'homme sur lui-même. C'est ainsi que se développe un individualisme puissant avec ses risques de dérive sectaire, totalitaire, dans les comportements individuels et collectifs, surtout dans nos sociétés occidentales. Dans l'ordre naturel, ces idéologies posent l'individu, donc l'un, comme principe antérieur à l'être. L'unité de nature entre l'homme et la femme tombe ainsi dans l'uniformité. Ils ne sont plus deux et complémentaires pour la génération, mais un par la neutralité de leur nature engendrée sous l'effet de la bioéthique qui écarte de ce fait toute complémentarité. Cette neutralité donne sens à l'idéologie de la théorie du genre. De même, ceux qui cherchent à modifier le point de vue de la procréation nient l'âme et ne regardent plus que la disposition pour elle-même, grâce à la science, se donnant sa propre finalité. Nier l'âme, c'est ensuite nier Dieu, son créateur. La complémentarité de l'homme et de la femme porte un fruit en puissance, la procréation, finalité de la vie végétative. De même, dans la complémentarité, l'amitié donne naissance à la famille constituée du père, de la mère et de l'enfant. La dimension politique prolonge ainsi la dimension éthique. Mais supprimer le concours naturel du père et de la mère pour la procréation, c'est aller à l'encontre de la famille. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés occidentales ? En modifiant la procréation, la science façonnée par l'homme modifie intrinsèquement la famille. La famille demeurant le fondement naturel de la vie politique, changer cela, c'est changer la nature humaine. L'activité politique doit être en premier lieu au service de la famille, car la famille constitue la cellule de base de la société. Par conséquent, modifier la procréation, c'est modifier la famille et aller à l'encontre de l'activité politique et de la nature. Le philosophe peut et doit affirmer que la politique, que la mission fondamentale de tout homme politique est de protéger la famille naturelle, donc la nature, puis de respecter la personne, c'est-à-dire de favoriser tout ce qui permet aux citoyens de s'épanouir comme personne. Ne plus respecter la procréation dans sa finalité naturelle, c'est supprimer la procréation, finalité de la vie végétative. Et c'est détruire la famille, fondement de la société. Mais c'est avant tout rejeter la complémentarité de l'homme et de la femme. Les idéologies de progrès par la procréation assistée, les nombreuses expériences en cours, ne conçoivent que le triomphe de la science sur la nature, sur l'univers physique, et sur la nature humaine. Elle cherche à dépasser la nature et à aboutir à un individu à la fois agent et effet de la science dans l'autodétermination de sa propre nature. C'est l'homme qui modifie et c'est l'homme qui est modifié. La complémentarité entre l'homme et la femme s'exerce tout particulièrement dans l'éducation qui mettent en évidence, en les distinguant, la nature et la personne. Au plan de la nature, dans la procréation, puis dans la première éducation, la mère a par nature le sens de la disposition. Selon les termes d'Aristote, la femme est ex parte materiae, c'est-à-dire du côté de la disposition, du côté de la matière, du côté du milieu par rapport à la finalité. Elle a donc un instinct immanent naturel. La disposition, c'est l'indétermination de ce qui permet d'être le nid, premier milieu de vie. C'est pour cela qu'elle est attentive aux détails, contrairement à l'homme qui est plus tourné vers la logique, vers la détermination. La disposition n'est pas du domaine logique, puisqu'elle vient de la matière. La matière enveloppe. La famille est un nid, comme la maison est un nid. C'est la femme plus que l'homme qui fait le nid, comme chez les oiseaux. L'homme a plus le sens de l'ordre, de la logique, de ce qui va ou ne va pas. Son esprit est plus critique. Mais une femme qui serait logique et deviendrait trop directive, autoritaire, serait facilement difficile à vivre. Au plan de l'éducation, quelle distinction peut-on faire entre l'homme et la femme ? En premier lieu, par la nature est donnée la complémentarité dans l'ordre de la procréation, de la génération. Puis en second lieu, une complémentarité sur le plan de l'éducation de l'enfant. La constitution physique de la femme est ordonnée à la procréation, ce que n'est pas celle de l'homme. C'est pour cette raison que la première éducation est à la charge de la mère, donc de la femme. Cette première éducation s'exerce au niveau de la nature, puisqu'elle ouvre l'enfant à la vie végétative et au premier niveau de la vie sensible. Par la maternité, la femme est liée aux besoins du corps de l'enfant. Elle a plus le sens de l'éveil de l'intelligence et du cœur par la sensibilité. Toutefois, il est nécessaire de veiller à ce que ce lien foncier entre la mère et l'enfant ne génère pas progressivement, après l'âge de raison, une dépendance de l'un envers l'autre, pouvant entraîner en situation limite le complexe d'Œdipe. Une mère possessive passe difficilement de la procréation à l'ordre de la finalité en vue de la croissance de la personne de l'enfant. Cet écueil disparaît quand la complémentarité du père et de la mère se réalise harmonieusement dans l'éveil de l'intelligence et de la volonté. Cet éveil est différent pour le garçon et la fille, différent dans leur complémentarité comme dans celle des parents. Ne pas les saisir, puis éduquer sans en tenir compte, conduit à la neutralité, à la similitude, puis à la destruction progressive de l'ordre naturel sous l'action d'idéologies liées à la science. Dans l'éducation, la fille possède une disposition plus grande au plan affectif. Le garçon, du côté objectif. L'ordre de la disposition vient de la procréation, donc de la nature. Cette diversité entre le garçon et la fille, entre l'homme et la femme, représente une richesse qu'on détruit en ne mettant pas en évidence, voire en supprimant cette diversité. La diversité fondamentale issue de la procréation est dépassée par l'unité au niveau de la finalité, dans l'amitié, dans la recherche de la vérité et dans la contemplation. Cette unité s'enrichit dans la diversité provenant de la nature, richesse acquise dans la complémentarité. Au plan de la vie sensible, l'imagination de l'homme diffère-t-elle de celle de la femme ? Leur capacité imaginative est identique, sachant que l'imagination n'a pas de finalité, mais leur exercice varie du fait de la différence entre la sensibilité masculine et la sensibilité féminine. La complémentarité des corps implique une psychologie masculine et une psychologie féminine, donc une intuition masculine et une intuition féminine. La femme est plus intuitive, l'homme plus logique, plus rationnel. Cela vaut aussi dans l'éducation des enfants. Entre le père et la mère, entre le garçon et la fille. Donc, la mixité n'est pas bonne, puisqu'elle ne respecte pas la différence entre la nature du garçon et celle de la fille, puisqu'elle nivelle leur éducation. Mais l'éducation a pour finalité la formation de la personne, en respectant la nature, puis en la dépassant vers la personne. Aujourd'hui, comme l'éducation ne respecte plus souvent cette distinction naturelle, elle ne forme plus suffisamment la personne. Car pour devenir une personne, il est nécessaire de respecter la nature humaine, d'où la distinction entre l'homme et la femme. Il s'agit là du réalisme foncier et premier, source d'une richesse essentielle pour le développement de la nature et de la personne. Chacun doit aimer la nature qu'il a reçue, même s'il ne l'a pas demandée. Mais c'est un fait à reconnaître, puis à recevoir en l'état. Sinon, l'imagination se pose un faux problème, suivi d'un désordre individuel, voire collectif, s'il est manipulé par les idéologies et par la science. L'éducation d'un enfant repose sur le réalisme premier de la nature. À l'inverse, quand elle ne fait plus de distinction entre garçon et fille, entre homme et femme, elle se soumet à l'imagination par manque de réalisme. Puis elle conduit à un genre neutre où l'homme et la femme ne sont plus distincts, d'où la théorie du genre. En tout homme, en toute femme, existent les dimensions de nature et de personne. La nature humaine nous est imposée par la nature elle-même, d'où le premier réalisme foncier à recevoir comme tel, sans discuter et à aimer comme étant un don de nature initiale. La personne humaine se réalise ensuite par le choix libre des finalités de la personne. Les 7 finalités constitutives de la personne humaine, en premier lieu sous la responsabilité des parents, puis à la charge de l'homme lui-même, l'homme pris au sens générique du mot. Il est nécessaire de revenir sans cesse à cet ordre premier entre nature et personne. Il met en évidence ce que représente la procréation au niveau de la nature, dépassé par le point de vue de la finalité au niveau de la personne. Rappelons ces finalités essentielles dans la vie. En premier, la recherche de la vérité. Puis, l'amitié spirituelle. Et au sommet, la contemplation de Dieu créateur de l'homme, de l'âme et de l'univers. La vie apparaît avec la procréation, puis à la fin survient la mort. Que dire de la mort au plan de la nature et de la personne? Après la naissance, la mort est inscrite dans la nature humaine. Ce n'est pas la personne qui meurt, c'est sa nature. Dans une culture qui veut supprimer la distinction homme et femme, la mort est relativisée, mais elle s'impose de fait, quoi qu'il arrive. L'absence de distinction entre l'âme et le corps, dans une perspective mathématique, où la relation est maîtresse, est donc purement relativiste, conduit à relativiser la question de la mort. La mort n'est alors plus considérée entre la nature et la personne, mais face au relativisme ambiant, entre l'individu et son esprit, sans âme et sans Dieu. Y a-t-il une différence dans la saisie de la finalité par l'homme et la femme, une différence dans les finalités de la vie humaine? Au point de départ, par nature, la femme est plus tournée vers l'immanence, l'homme vers la transcendance. L'expérience de l'amitié fait comprendre cette différence. La femme est plus intérieure par sa disposition à la procréation, l'homme plus extérieur par son sens logique. L'amitié permet aussi de prendre conscience du dépassement de la nature avec la complémentarité par la personne avec l'ami en tant que personne. De fait, l'amitié entre hommes ou entre femmes est différente de l'amitié entre un homme et une femme, parce que la nature humaine est toujours présente dans l'amitié. Ne pas différencier cela, c'est s'abstraire de la nature. La nature demeure dans l'amitié, mais elle est dépassée par la finalité. Ainsi, dans l'amitié, comme dans la contemplation, la finalité reste la même pour l'homme et la femme. Mais elle s'exerce de manière différente chez l'un et chez l'autre, dans une forme de complémentarité. donc de richesse absente dans la similitude, donc dans la neutralité. Sachant que la femme atteint plus facilement la finalité par la disposition, l'homme par la raison, la logique, la finalité est donc saisie de deux manières. D'une façon immanente chez la femme et transcendante chez l'homme. Dans le couple, cela peut entraîner parfois, ou même souvent, des incompréhensions à mettre non pas au niveau fondamental, mais à l'ordre de la différence des natures dans leur complémentarité. La philosophie ou la métaphysique est la même pour l'homme et la femme. Les deux principes de la substance et de l'acte sont également les mêmes, mais la manière de les atteindre diffère selon la forme d'intelligence de l'un et de l'autre, faisant appel à une imagination normalement plus intuitive pour la femme et plus rationnelle pour l'homme. Par son sens de la disposition, l'intelligence de la femme est plus dépendante de l'amour, tandis que celle de l'homme, par son sens de la logique, de la détermination, raisonne davantage. La femme saisit plus rapidement les exigences de l'amour, dont elle a plus besoin que l'homme. Elle est plus en recherche, plus curieuse intellectuellement que l'homme. Pour cette raison, les femmes sont plus attirées par la philosophie réaliste, par l'intermédiaire de la finalité, les hommes plus attirés par la philosophie idéaliste, donc par le point de vue de la forme. Ce qui les réconcilie, c'est que la philosophie réclame les deux. La forme devant être mise au service de la finalité. Dans un ordre de sagesse, du côté féminin, l'amour prédomine, et du côté masculin, c'est l'intelligence. D'où vient l'instinct de domination par l'intelligence, donc l'esprit critique chez l'homme, et de même le risque de tout ramener la matière à la disposition ou à la fin, donc à l'amour chez la femme. C'est la tentation du formalisme chez l'homme et la tentation d'une trop grande souplesse dans l'amour chez la femme. Aime et fais ce que tu veux. La célèbre expression est belle et vraie, mais elle est réservée à Dieu et non à l'homme ou à la femme. Abordons maintenant en fin de parcours le sommet des finalités humaines, de la procréation à la contemplation. Et préalablement, y a-t-il un lien entre la procréation et la contemplation? La procréation est la finalité de la nature. La contemplation de la vérité, la contemplation de Dieu créateur, finalité de la personne, peut donner sens à la nature dans son dépassement au niveau de la personne. La finalité permet ce dépassement, qui doit s'effectuer sans cesse, sans arrêt, sinon la nature s'imposera sur la personne. L'absence de finalité renvoie l'homme à sa nature, qui n'est alors plus respectée comme telle dans sa dimension qualitative, mais réduite au plan de la quantité. Ce repli sur soi aboutit à ne considérer l'autre ou l'univers, le corps, l'homme, que d'un point de vue utilitaire, dans l'ordre de l'avoir et non plus dans l'ordre de l'être. Bien évidemment, dans une telle situation, l'âme n'existe plus. Dieu est mort, selon la fameuse expression de Nietzsche. La contemplation est-elle plus parfaite chez la femme ou chez l'homme? De fait, il existe bien une complémentarité entre eux. Que peuvent-ils s'apporter mutuellement? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de revenir à leur complémentarité au plan de la nature, puis à l'expérience de l'amitié. En effet, l'amour tient une plus grande place dans la contemplation de la femme que dans la contemplation de l'homme, qui est davantage reçu dans l'intelligence. Ils sont complémentaires dans l'entraide mutuelle, puisqu'il n'y a pas de contemplation sans amour ni intelligence. La femme est-elle davantage portée à la contemplation que l'homme ? Non, parce que la contemplation est la finalité de la vie humaine commune à l'homme et à la femme. La contemplation lie deux êtres substantiellement, car la finalité est substantielle en Dieu. Parce qu'elle est substantielle, elle est unique et personnelle. Ce n'est pas la nature, mais la personne qui contemple Dieu. La science mathématique n'aide pas à la contemplation, puisqu'elle regarde les causes secondes en vue d'une efficacité par la relation. Elle ne regarde pas la cause première au niveau de l'être, donc au niveau de la substance, puis de la personne. Dans l'ordre de la sagesse, on est en face d'une connaissance affective, aimante, au-delà de la logique qui contribue à s'y préparer. On ne contemple pas à deux, mais seul, dans la solitude de l'âme et du corps. Toutefois, on peut se disposer à deux à la contemplation. La femme, par son sens de la finalité, dans l'amour, l'homme, par son sens logique, de l'ordre. Ensuite, le dépassement de la nature dans l'entraide s'effectue séparément, individuellement, pour atteindre le sommet de la finalité de la personne. Peut-on arriver par soi-même à la pure contemplation ? Dans l'histoire de la philosophie, Plotin a pu atteindre une sagesse contemplative qui met l'homme en union continue avec le Créateur, au-delà de tout aspect humain. Dans la contemplation de Dieu, l'homme vit de cette attraction unique, exclusive même, sans rejeter l'amitié, mais en la dépassant radicalement. L'ami devient l'intermédiaire entre son ami, l'homme, et Dieu. C'est le sommet de l'amitié. Le réalisme consiste à distinguer l'homme et la femme au plan de la nature humaine et à voir la personne par l'amitié et la contemplation. L'amitié spirituelle est nécessaire pour permettre à l'homme d'acquérir sa vraie personnalité, car l'amitié est une finalité essentielle dans la vie humaine. Cette fin reste toutefois intermédiaire, puisque dépassée par la contemplation. L'amitié assure donc un pont entre la finalité de la nature et la finalité de la personne. Mais pour être véritable du point de vue humain, elle exige d'être dépassée par la contemplation. Une amitié spirituelle qui ne serait pas ou plus dépassée par la contemplation se corromprait progressivement. Car, par sa finalité divine qui dépasse et unit le plan humain, la contemplation est gardienne d'une véritable amitié entre un homme et une femme, comme entre hommes ou entre femmes. L'expérience d'une véritable amitié rectifie donc la nature et la personne de chacun des amis par l'exigence de la nature sur le corps et de la personne sur la finalité. Sachant que l'ultime finalité de la personne réside dans la contemplation, l'amitié doit être dépassée par la contemplation et tendre vers elle pour qu'elle puisse s'accomplir pleinement et durablement au niveau de la personne. L'amitié devient alors amicabilis. En tant que c'est l'ami qui conduit son ami à dépasser l'amitié pour la contemplation. L'amitié atteint un sommet au-delà de toute utilité, jouissance et sensibilité. Cela signifie qu'une véritable amitié qui augmente notre désir de contemplation par un besoin de solitude est le signe d'une amitié tendant vers la perfection. Si l'amitié devient un obstacle à la vie contemplative, elle devient un obstacle à découvrir ce pourquoi nous sommes faits. La véritable amitié, l'amitié parfaite, demande ce dépassement sensible de l'amitié dans un au-delà de la passion pour un bien supérieur, la contemplation de Dieu. La personne est donc ainsi structurée par la sagesse qui conduit à la contemplation, dans le dépassement de l'amitié par la contemplation de Dieu dans un regard d'amour supérieur à tout amour humain et par là même finalisant l'amour humain.